Alors, merci de tourner dans vos bibles en l'évangile selon Jean. Alors, commençons verset 35 de chapitre 1. Le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples. Il regarda Jésus qui passait et dit: Voici l'agneau de Dieu. Les deux disciples entendirent ces paroles et suivirent Jésus. Jésus se retourna, vit qu'ils le suivaient et leur dit: Que cherchez-vous? Ils lui dirent: Rabbi, ce qui se traduit maître, où demeures-tu? Alors, quelques petites notes. Là, on voit vraiment que c'est écrit pour des lecteurs non juifs parce que doit expliquer ce que veut dire le mot rabbin. Donc, des petites précisions comme ça nous aide justement à avoir un peu de repères. Et donc le lendemain, ça fait référence au baptême de Jésus. Ce que on a vu la semaine dernière, on a terminé avec cette histoire. Donc rappelons-nous un petit peu comment ça s'est déroulé. Jean, il voit le Saint-Esprit descendre sur lui. En fait, il était auparavant averti par Dieu. Il a dit: La personne sur laquelle tu vois descendre le Saint-Esprit sous forme de colombe, c'est celui-ci. Et donc, dès qu'il voit, les choses s'accordent. Et Jean, il dit devant tout le monde: Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. En quelque sorte, sa mission est accomplie. Encore, le lendemain, il le voit et puis il relance la balle pour que les gens y comprennent. Son rôle maintenant, vraiment de passer le bâton. Et donc passer le bâton, ça c'est la chose, je crois, le plus important pour lui parce que quand il y avait ces pharisiens et les chefs, ils sont venus pour demander que fais-tu, qui es-tu et tout. Et puis il n'a pas menti, mais il a dit clairement, je ne suis pas le Messie, c'est pas moi, mais en fait, je suis la voie dans le désert, je suis celui qui prépare le chemin. Alors, il a préparé le chemin. Et maintenant, le Messie est venu. Et donc, il y avait ces deux disciples. On pense que l'un de ces deux était Jean. Parce que ça s'accorde avec sa façon. Il ne dit jamais son nom dans cet évangile. Mais il détourne les phrases pour éviter justement que son nom apparaît. On l'appelle, comme ici, un des disciples ou le disciple que Jésus aimait ou l'autre disciple. Tout sauf son nom et peut-être ça surtout pour garder la différence entre ces deux personnes, Jean-Baptiste et Jean qui va devenir un apôtre. Mais avant tout, quand on lit la totalité de ce que cet homme a écrit, son évangile, le livre d'Apocalypse, les différents épîtres, les lettres, on a aussi l'idée que c'était un homme qui voulait rester humble aussi. Donc c'est certainement par souci d'humilité. Il se trouve même pas digne d'avancer son nom comme ça. Il n'est pas de ce genre. Et justement, dans l'épître de 3 Jean, il dénonce quelqu'un qui aime prendre la première place et qui aime être le grand chef. Donc, c'est avec ces petits détails-là que nous comprenons mieux justement cet auteur. J'aime bien cette scène maintenant. Ce que je trouve merveilleux. Jean, il passe le bâton et donc il y a ses deux disciples. Peut-être ils se regardent l'un à l'autre. Ils disent: Ok, on y va, on va le suivre. Et donc ils commencent à le suivre, mais apparemment ils le suivent pas bien ou peut-être à une distance. De toute façon, il ne demande pas son avis. Alors, c'est un endroit qui a des collines, un lac. Et donc, le fait de marcher un petit peu comme ça, il n'y a pas vraiment des endroits pour se cacher. Et donc, ils suivent. Évidemment, si quelqu'un est suivi, ça serait très facile de le repérer. Enfin, il n'y a pas beaucoup d'arbres. Et en plus, il y a un effet assez étonnant autour de la lac où On peut entendre chaque bruit. C'est un endroit très calme. Il y a un amphithéâtre naturel. Les bruits sont amplifiés naturellement. Il marche à sa suite. Et puis, peut-être il sourit. Il regarde derrière lui. Mais qu'est-ce que vous faites? Et puis, eux, du coup, ils ne savent pas quoi dire. Ils disent ravi. On peut imaginer, ils inventent quelque chose parce que qu'est-ce qu'ils doivent dire? Enfin, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que tu fais? Où est-ce que tu habites? Qu'est-ce qui se passe? Enfin, en fait, ils sont tellement émerveillés parce qu'ils ont vu le jour avant par le fait que ce grand maître dans le désert, Jean, lui donne maintenant les éloges et dit qu'en fait c'est lui le Messie, pour toute l'espérance d'Israël est entre ses mains. On peut très bien imaginer qu'ils sont vraiment en train d'observer comment il marche. Est-ce qu'il y a un peu de lumière qui circule autour de lui? C'est assez curieux. Le jour avant, ils ont vu l'Esprit Saint descendre sur lui dans une forme de colombe. Aujourd'hui, c'est un homme comme tout le monde. Et puis, du coup, il n'y a personne et ils parlent à eux. Déjà, dans d'autres histoires, dans les évangiles, quand Jésus parle à des gens, il paraît qu'il avait une force étonnante. Il avait la puissance de parler, arrêter des tempêtes. Il parlait, il y avait des démons qui s'arrêtent et qui sont chassés. Peut-être c'était dans la façon qu'il regardait, une façon si pure. Peut-être c'était tout simplement le témoignage du Saint-Esprit autour de lui. Peut-être physiquement, il n'y avait rien, comme il est dit justement en Ésaïe 53, il n'y avait rien dans son apparence pour nous attirer. Mais il y avait cette force du Saint-Esprit. N'oublions pas que l'évangile selon Jean, c'est l'évangile où on met en valeur sa divinité. Et donc, du coup, ils sont face à face avec leur Créateur et ils ne savent pas quoi dire. Il faut qu'ils disent quelque chose. Où demeures-tu? Mais Jésus, il est bon. Il se moque pas d'eux. Et peut-être c'est même avec un sourire accueillant. Il dit, venez et vous verrez. Il allèrent et virent où il demeurait, et demeurèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. Là, il y a deux, trois possibilités selon l'heure. Soit c'est les Romains et c'était dans l'après-midi, ou soit c'était l'heure locale et la 10e heure, c'est plutôt le matin. Donc il y a deux possibilités. Je pense que c'est plutôt le matin parce que ça leur a donné toute la journée passée avec lui. Et il suffit qu'ils passent la journée avec lui et ces gens-là, ils sont à lui. Ils sont ses disciples. Qu'est-ce qu'ils ont dit pendant cette journée? Qu'est-ce qu'ils ont vu? Certainement, ils ont parlé de l'écriture. Certainement, ils ont parlé de l'espoir d'Israël et plein de choses. On a des discours de Jésus. Et donc, on a plein d'idées justement de ce qu'il aurait pu dire. Mais le fait qu'il nous suffit qu'une journée passée en sa présence, ça y est, on est à lui. Et je crois que d'une autre manière, par moyen d'application, que si nous pouvons juste amener les gens à Christ pour qu'ils passent du temps avec lui, ils se convertiront aussi, ils vont savoir à quel point il est, tout ce qu'il a dit, à quel point il est merveilleux. Et donc ça, c'est pourquoi nous, en tant que chrétiens, nous cherchons à être remplis du Saint-Esprit. Parce que, en fait, nous sommes le corps de Christ. Physiquement, sur la terre, nous sommes donc les représentants de Christ. Et si les gens de cette terre vont passer du temps avec Christ, ça doit être de cette manière-là. Pas que nous sommes Christ, ou nous sommes des petits dieux. Non, non, c'est pas ça. Mais c'est par son Saint-Esprit au travers de nous. C'est la manière prescrite par Dieu pour que les gens puissent passer du temps. Et donc, avoir un travail où vous êtes entouré des non-chrétiens est véritablement un champ de mission parce que là, ils sont obligés de passer au moins 8 heures par jour avec Christ si vous êtes rempli du Saint-Esprit. C'est une bonne chose, finalement. Regardons les réactions dans leur vie personnelle. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Il trouva d'abord son propre frère Simon et lui dit: Nous avons trouvé le Messie, qui se traduit Christ. Encore un autre renseignement que ce n'est pas tout à fait un public juif à qui cette lettre est destinée, mais bon, parce que sinon tout le monde le sait. Donc nous avons trouvé le Messie, qui se traduit Christ. Il le conduisit vers Jésus. Jésus le regarda et dit: Tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas, qui se traduit Pierre. Alors, André. André est un des 12 disciples, mais on n'entend pas beaucoup de lui. Mais ce qui est quand même frappant, chaque fois qu'on fait mention de André, il amène toujours quelqu'un à Christ. Il est la personne qui a amené Pierre. Et Jésus, quand il le voit, il y a cette interaction entre eux, et puis Jésus dit: Tu t'appelles Simon, simple, un homme, mais tu seras appelé Pierre, donc comme une pierre. Et c'est une parole prophétique. Ça va décrire sa personnalité. Dur parfois, mais aussi ça décrit la façon il va être utilisé comme pour une fondation de ce qui viendra plus tard. Et ça montre que Jésus, il voit puissamment dans la vie de ces gens, prophétiquement, il parle avec une autorité divine. Encore? Simon, Pierre, qui est face à face avec Dieu incarné, il a sa vie révélée devant ses yeux. Alors, pour André, c'est intéressant que on n'entende pas grand-chose de lui, mais il est la personne qui a amené peut-être l'apôtre le plus fameux de tous les 12. Et je crois que tout le monde a une certaine admiration de Pierre, finalement, surtout après le Saint-Esprit vient. Mais qui est plus grand? Pierre ou la personne qui l'a amené? C'est intéressant parce que, tu vois, s'il n'y avait pas André, comment est-ce que Pierre aurait pu être entré? Bon, certainement, le Seigneur avait ses plans. Mais ça nous montre que il y a un ministère super, calme, discret, puissant. Et qui sait, peut-être ça serait notre grand ministère d'amener le prochain grand homme ou personne qui va faire un grand impact dans cette société ou dans cette ville. Quel grand privilège. Mais on ne sait pas qui c'est. Ça, c'est pourquoi il faut être fidèle à continuer. Que cette personne vienne, comme André était certainement, il ne souhaitait pas que c'était son frère, mais peut-être après, il a compris. Alors, le lendemain, il voulut se rendre en Galilée. Alors, une chose qui est intéressante, entre ces versets et le chapitre 2, où il y a les noces à Cana, tout ça se passe dans la période d'à peu près une semaine. Et à la fin du chapitre 2, donc ce qui se passe en Jérusalem, tout ça se passe dans une période de peut-être 2 semaines. Notez comment tout s'enchaîne. Et il y a 2 semaines de la vie de Jésus qui n'apparaît pas dans d'autres évangiles. Les choses commencent à se passer assez rapidement. Alors le lendemain, il voulut se rendre en Galilée. S'il veut prendre un long voyage, on sait que ça ne peut pas être le sabbat, parce que le sabbat, on n'a pas le droit de faire des longues marches. Donc, peut-être c'est le premier jour de la semaine, il trouva Philippe, donc un de ses autres disciples, et Jésus lui dit, suis-moi. Et Philippe était de Bethsaida, la ville d'André et de Pierre. Et Philippe trouva Nathanaël. Il lui dit, nous avons trouvé celui dont il est parlé dans la loi de Moïse et dans les prophètes, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Et Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui dit, oh, viens et vois. Jésus vit venir à lui, Nathanaël, et dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a pas de fraude. Nathanaël lui dit, d'où me connais-tu? Jésus lui répondit, avant que Philippe t'ait appelé, quand tu étais sous le figuier, je t'avais vu. Nathanaël reprit, Rabbi, toi, tu es le Fils de Dieu. Toi, tu es le roi d'Israël. Alors, il y a des choses à voir. Imaginons que c'est peut-être le premier jour de la semaine et donc Philippe qui croise Jésus, enfin qui trouve plutôt Jésus, et donc il cherche son frère Nathanaël. Et Nathanaël dit cette phrase curieuse, peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Alors qu'est-ce qu'il y a de mauvais avec Nazareth? Bon, un peu d'histoire. Nazareth et Cana, donc la région d'où venaient justement ses frères, sont assez proches. Mais Nazareth, en fait, c'était une colonie. Les gens de Nazareth venaient plutôt de Bethléem et de cette région-là. Ils étaient plus ou moins des gens de la tribu de Juda et qui sont transplantés dans le nord du pays. Alors, pourquoi? Peut-être c'était pour parce que la terre est plus cultivable. Peut-être c'est pour l'eau, qui sait. Donc, il y a cette colonie. Et comme on est dans des endroits un peu ruraux, quand il y a des gens qui viennent s'installer, qui ne sont pas de là, des étrangers, même du même pays, mais ça s'est toujours vécu dans les affaires des hommes comme une invasion. Et donc, les Cananéens, qui sont là depuis plus longtemps que les Nazaréens, donc ils voient ça comme plutôt ça, une gêne. Et donc ils disent, d'accord, il y a cet homme de Nazareth, bon, très bien. Est-ce qu'il peut avoir quelque chose de bon? Qu'est-ce qui va nous enlever maintenant? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a aussi la possibilité que c'était un petit peu son caractère. Mais Jésus qui dit que c'était un Israélite où il n'y a pas de fraude, alors ça nous donne aussi quelques indices. C'était un homme qui parlait franchement, un homme qui était sans duplicité. Aussi, il est très intéressant que Nathanaël se trouve en dessous d'un figuier. Un figuier qui est le symbole d'Israël. Alors là, on a Nathanaël, dont le nom veut dire le don de Dieu, qui se trouve en dessous de ce figuier, le symbole d'Israël, au moment où Jésus le voit. D'abord, on doit savoir donc que c'était pas possible qu'il le voie naturellement. Donc, ça c'est quelque chose qu'il a vu surnaturellement. Si c'était justement le lendemain après le sabbat, peut-être qu'il avait déjà en tête les choses dont ils ont parlé dans la synagogue. Peut-être qu'il priait. Peut-être même que sa réaction est tuer le roi d'Israël. Peut-être il commençait en lui-même à
chercher justement les temps et les saisons pour voir quand est-ce que le Messie viendra. Peut-être il avait ce grand désir de voir justement le Messie. Je ne sais pas du tout, c'est de spéculation pure. À partir de ce qui est dans le texte, mais ce que nous savons, c'est que Jésus était au courant. Jésus savait exactement ce qui s'est passé. C'était un secret entre Nathanaël et Dieu et Jésus l'a vu. Et donc, ça nous montre aussi que pour nous aussi, quand nous avons ces prières, on pense peut-être qu'il n'y a personne qui entend. Jésus entend, il nous voit, il entend chaque parole et on peut avoir cette assurance parce qu'on le connaît, il vit en nous. Donc, en disant, Rabbi, toi, le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'avais vu sur le figuier, tu crois? Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. En vérité, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Tournez, s'il vous plaît, en Genèse chapitre 28, parce que Jésus fait référence à un texte très important. Alors il faut qu'on le voie dans son contexte. C'est une histoire de Jacob. Jacob qui fuit son frère qui maintenant le menace de mort parce que il a volé son droit d'ânesse, il a volé sa bénédiction, il n'a laissé rien pour son frère Ésaü. Donc ils partent. Et à partir de verset 10, Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Haran. Il atteignit un endroit où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit l'une des pierres de l'endroit, il la plaça sous sa tête et il se coucha à cet endroit. Il eut un rêve. Voici qu'une échelle était dressée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et les anges de Dieu montaient et descendaient. Or, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta descendance. Ta descendance sera innombrable, comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'ouest comme et à l'est, au nord et au sud, toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta descendance. Voici, je suis moi-même avec toi, je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce territoire, car je ne t'abandonnerai pas avant d'avoir accompli ce que je te dis. Jacob s'éveilla de son sommeil et dit, certainement, l'Éternel est présent dans cet endroit et moi, je ne le savais pas. Alors, il voit une échelle, il y a des anges qui montent et descendent là-dessus. Une échelle qui commence sur terre et qui va dans les cieux. Jésus qui dit, en vérité, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. C'est-à-dire que Jésus est donc l'échelle. Il est le médiateur entre Dieu aux cieux. Et les hommes sur terre. Il est le médiateur. C'est une échelle pour que, grâce à lui, on puisse y aller. Mais c'est plus que ça aussi. Nous savons que c'est par la croix qu'il devient ce médiateur, cette échelle entre Dieu et nous. Mais quand Jacob a entendu ce rêve, qu'est-ce que Dieu disait avec cette échelle? Il disait, je serai avec toi et je te garderai là où tu vas. Mais il a répété la promesse donnée à Abraham. Ceux qui te béniront, je te bénis. Ceux qui te maudiront, je les maudis. Mais surtout, je te donne ce territoire. Donc, Jésus qui est le médiateur entre l'homme Et Dieu, il est aussi celui qui va accomplir donc toute cette promesse pour que Israël ait tout son territoire quand il vient pour régner. Parce que qu'est-ce que Jacob a dit après la fin de ce rêve? L'Éternel était là et je ne savais pas. Troisièmement, ça montre que Jésus, il se dit Dieu, donc. L'Éternel était là et je ne le savais pas. Qu'est-ce qu'il y avait qui était là? Il y avait l'échelle qui montait entre les hommes et les dieux. C'était une image de Jésus avant l'heure. Il y avait les anges qui montaient et descendaient. Donc, on a, avec tout ça, ces symboles, tout y est. Nous avons Jésus, Dieu, le Fils. Nous avons Jésus, donc, c'est lui qui est le médiateur entre l'homme et Dieu. Et nous avons Jésus, donc, c'est lui qui accomplit toutes les promesses à Israël. Rappelons-nous que Jésus vient de dire à Nathanaël, voici un Israélite en qui il n'y a pas de fraude. Donc il y a une scène puissante, très imagée, qui va très bien dans le style de Jean, où nous parlons du Messie dans toutes ses phases. Le Messie qui est Dieu, le Messie qui est celui qui nous purifie, donc qui nous enlève le péché, et le Messie finalement qui va régner. Donc la plénitude dans un très court passage où on lit ce qui était dit avant dans l'Ancien Testament et ce qui viendra dans le Nouveau Testament. Alors, 3 jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus fut aussi invité aux noces ainsi que ses disciples. Alors, selon la coutume, une vierge se marie le 4e jour de la semaine et une veuve le 5e jour. Il y a des raisons pour ça, mais c'est ce qui est dit apparemment dans le Talmud. Ça nous aide à situer maintenant où on est. Parce que 4e jour de la semaine, ça nous met mercredi dans notre semaine à nous. Alors, si il a rencontré donc Philippe et Nathanaël 3 jours avant, donc ça fait que la rencontre avec Simon-Pierre était le sabbat. Ce qui est tout à fait possible parce qu'on ne voit pas, il n'y a pas de grande action. Il y a une rencontre, tout simplement, et ça peut se faire même dans la synagogue. Ça peut se faire n'importe où. Mais il entreprend son voyage le premier jour. Il arrive juste à temps pour que... Donc, premier jour, il rencontre Nathanaël. 3 jours plus tard, il arrive le 4e jour, le jour du mariage pour ses noces. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont pas de vin. Jésus lui dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs et contenant chacune 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces jarres et ils les remplirent jusqu'en haut. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'organisateur du repas. Et ils lui en portèrent. L'organisateur du repas goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient. Il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après, quand c'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut, à Cana, en Galilée, le commencement des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire. Et ses disciples crurent en lui. Donc, commencement de ces miracles. C'est étonnant qu'il commence avec un changement de l'eau en vin. Et pour un mariage, c'est vraiment radical parce que nous voyons que Jésus est quelqu'un de très convivial finalement. Qu'il aime la joie, qu'il soutient le mariage. Pour un premier miracle, ça parle beaucoup de comment il voit la vie. Comment il veut bénir justement les gens qui vivent pas normalement. C'est aussi un lien entre, comme on a vu dans l'introduction, en lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. C'est un miracle qui répand justement la vie. S'il n'avait rien fait, il paraît que le couple pouvait être même mené en justice pour avoir fait, pour être des mauvais hôtes. Et donc ça pourrait être vraiment grave pour ces gens-là. Et une autre chose aussi qui est assez intéressante, c'est que ce miracle est un miracle de création. C'était une transformation, mais le vin s'est fait à partir du raisin. Et en fait, à l'époque, on buvait de l'eau mélangée avec du vin parce que parfois l'eau n'était pas très propre. Et c'était plus sûr de boire l'eau avec un peu du vin que de ne pas le faire. Mais le vin, en sens propre, ce n'était pas fait à partir de l'eau. Donc il y avait une transformation complète. C'était un miracle de création. Personne ne l'a vu, sauf les serviteurs. Marie, qui a essayé de forcer un petit peu la main, elle avait tort de le faire. De toute façon, c'est jamais une bonne idée d'essayer de manipuler Dieu. Mais comme il est plein de grâce, il est venu en aide, pas à Marie, mais à ce couple, justement. Et seulement les serviteurs étaient au courant. Alors, un prédicateur qui s'appelle W.E. Vine a dit que ces deux signes correspondent parfaitement aux tentations de Jésus dans le désert. Première tentation de Jésus dans le désert était, quand il avait faim, de changer les pierres en pain. C'était une tentation à l'égoïsme, à satisfaire ses propres besoins. Mais ici, nous voyons tout ce qui est le contraire. En fait, il bénit des gens et il crée de la nourriture pour des gens qui n'en ont pas. Et la seule personne qu'il a vue, c'était des serviteurs. Donc, la réponse à cette tentation d'utiliser les dons de Dieu pour soi ou pour des fins égoïstes. C'était ça la tentation, utiliser les dons de Dieu à des fins égoïstes et d'utiliser les dons de Dieu pour servir et bénir les autres. C'est ça la réponse à cette tentation. Et donc Jésus est devenu comme un des autres serviteurs. C'était un miracle pour les serviteurs fait par le grand roi. Alors, après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère et ses disciples. Il n'y demeure que quelques jours. Alors, Capernaum, qui n'est pas très loin non plus. Donc, si c'était le quatrième jour, donc ils ont le temps pour rester à Capernaum, passer le sabbat, parce que la Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Donc là, maintenant, ils ont toute une semaine pour monter à Jérusalem pour la Pâque. Voyez maintenant comment tout s'enchaîne dans une période de très peu de temps. Alors, qu'est-ce qui s'est passé quand il était là? Trouva établi dans le temple des vendeurs de bœufs et de brebis et de pigeons et d'échangeurs. Il fit un fouet de cordes et les chassa hors du temple.
Ainsi que les brebis et des bœufs, il dispersa la monnaie des changeurs, renversa les tables et dit aux vendeurs de pigeons, « Ôtez cela d'ici et ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. » Ses disciples se souvenèrent de ce qui est écrit, « Le zèle de ta maison me dévore. » Alors, pourquoi est-ce que Jésus était tellement en colère? D'abord, ces gens, ce qu'ils faisaient, ils changeaient l'argent des gens dans un argent qui était seulement accepté dans le temple. Et bien sûr, ce n'était pas sans intérêt. En plus, comme la loi de Moïse exige que les animaux soient des animaux purs, donc ils font semblant de faire un petit service pour le peuple. Là, vous n'avez rien à craindre. Venez amener votre argent. Il faut changer en notre argent, bien sûr. Et puis, vous pouvez acheter en sûreté le meilleur des animaux pour les sacrifices. À un certain prix, bien sûr. Et donc, ils alourdissent déjà la tâche ou les proies économiques que va présenter tout ça. Ils volaient sur le dos des sacrifices et le peuple. Alors, il y avait un endroit, justement, qui était construit dans le temple ou en dehors du temple, dans la rue principale qui menait juste à l'extérieur du temple. Et il y avait des endroits qui ont servi comme des stands où les gens devaient normalement vendre des choses comme ça. Or, là, Jésus était dans le temple. Ces salles et ces petites stands pour vendre, ça c'est en dehors du temple. Alors que Jésus, il est dans le temple. Alors s'ils sont dans le temple, ça c'est autre chose. En fait, le temple, il y avait plusieurs endroits. À l'extérieur, c'est la cour des non-juifs. Et là, n'importe qui peut venir s'il est purifié, il peut aller jusqu'à une petite partition où c'est écrit dans trois langues. Si vous n'êtes pas juif et vous dépassez cette borne, vous risquez votre propre vie. Et là, il y avait le cour des femmes et ensuite des hommes. Alors, ces gens-là, ils s'installaient là dans le cour des non-juifs, des gentils. C'est-à-dire que ils faisaient obstacle à ceux qui voulaient louer le Seigneur. Et c'est pour ça que Jésus était si en colère contre eux. Parce que ces gens, ils empêchaient, surtout ceux qui ne connaissent pas Dieu, de venir le louer à cause de leurs marchandises. Ils ne supportaient pas. Et en tant que Messie, ils nettoient le temple. Qui est d'ailleurs une belle image de ce qu'il fait quand il entre dans notre cœur. Une chose qu'il continue de faire, parce qu'on a tous péché qui s'installe. Vaut mieux être soumis à sa direction, demander justement qu'il nous purifie, ou qui vient plus gentiment et qui ne doit pas amener son fouet pour nettoyer bien avec du force, parce qu'il est le roi, il nous aime, il va faire ce qui est de mieux pour nous. Et comme on peut très bien imaginer, ce petit geste a été vite réparé par les chefs. Verset 18, les Juifs prirent la parole et lui dirent, mais quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Notez bien, ils n'ont pas remis en question la validité de ce qu'il a fait. Parce que tout le monde savait que c'était de l'arnaque, que c'était une très mauvaise chose qu'il faisait là. Mais pour apparaître plus religieux, spirituel, comme pensent souvent les gens qui ont tort dans ce sens-là, pour chasser un homme de Dieu, c'est quelque chose qui est répété souvent. Malheureusement, dans le Nouveau Testament,
si bien que dans l'ancienne, de temps en temps, ils prennent des airs très spirituels et disent, mais quel miracle est-ce que tu vas montrer? Mais Jésus, il n'est pas dupe, comme toujours. Et il dit, détruisez ce temple. Et en 3 jours, je relèverai. Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple. Et toi, en 3 jours, tu le relèveras. Mais il parlait du temple de son corps. Et quand il fut ressuscité d'entre les morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela et crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Ce signe correspond à la deuxième tentation où Satan a amené Jésus sur le haut du temple. Il a dit, jette-toi, parce que il est écrit qu'on verra des anges pour que tu ne brises même pas un os ou ton pied sur terre. Jésus, bien sûr, il n'a pas fait parce que cette tentation était, si tu es réellement qui tu dis que tu es, montre-le devant tout le monde. Fais un grand spectacle pour que tout le monde le voie. Un peu comme ses chefs ont dit, si tu es réellement qui tu dis que tu es, alors fais quelque chose de grand. Les paroles, ça c'est bien beau, mais fais quelque chose. C'était une attaque à son orgueil, une incitation à se montrer fort. Quel est le remède? Jésus, il parlait de sa mort et sa résurrection. C'est ça le remède pour l'orgueil. C'est la croix et la vie dans l'esprit. Ça, c'est le seul remède pour ce genre d'activité. Parce que la croix crucifie donc l'orgueil et l'esprit prend le dessus sur la chair. Et ça, c'est la réponse à cette tentation. Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom à la vue des miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait pas à eux, parce qu'il les connaissait tous, parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage de quelqu'un. Il savait de lui-même ce qui était dans l'homme. Il y avait des grands miracles. Les gens commençaient à croire. C'est normal, ça montre qu'ils sont intelligents finalement. Ils ont vu des choses, et donc ils croient à ce qu'ils voient. Mais ça ne crée pas des gens très très solides, parce que finalement, tous les miracles qu'ils ont vus ne vont pas arrêter les gens de Jérusalem de crier, crucifie-le. Relâchez Barabbas. On n'a pas droit que César. Ils ont vu beaucoup de miracles, ces gens. C'est pas ça qui fortifie totalement la foi. Et c'est bien de le savoir parce que souvent on dit, ah mais s'il y avait seulement un tel qui a un grand ministère, il y a beaucoup de spectacles, il y a beaucoup de flashs, si seulement il peut venir ici, là, il va avoir des conversions. Là, il va avoir des grandes choses. Mais attention, c'est pas le spectaculaire qui crée la foi réelle. Ça, c'est une œuvre plutôt du Saint-Esprit. Et notez bien, Jésus, il ne se fiait pas aux gens. Nous, par contre, quand quelqu'un nous dit une chose, on attend qu'il tient parole. Autrement dit que si quelqu'un ne tient pas parole, Jésus ne serait pas choqué, il ne serait pas déçu, parce que sa confiance n'était pas dans l'homme. La confiance est en Dieu, dans le Père. Et de toute façon, même ses plus proches l'ont abandonné avant la crucifixion. Ça ne veut pas dire qu'ils s'en voulaient à eux non plus, parce qu'ils savaient sait ce qui est dans le cœur de l'homme. Il sait ce qui est dans en nous tous. Il sait que nous ne sommes rien d'autre que des pécheurs, des pauvres pécheurs ont besoin d'un sauveur. C'est pour ça qu'il est venu. Il savait très bien. Et ça nous aide. Parce que nous, dans notre nature pécheresse, si on le prend d'un sens trop poussé, on peut avoir un regard cynique ou même fataliste. Il n'y a personne qui est digne de confiance et tout. Ok, c'est vrai, mais je suis parmi les premiers. Et ben, nous sommes tous, mais attention, ma confiance n'est pas en l'homme, mais ma confiance est en Dieu qui utilise les hommes. Et donc c'est ça qui nous donne les bonnes perspectives. Car Dieu utilise les hommes. Et donc quand il y a des bonnes choses, on peut louer Dieu ensemble. Et c'était donc un autre exemple de comment Jésus est Dieu. Car qui peut connaître le cœur de l'homme si ce n'est Dieu?